Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Que faire des objets d'art et des objets culturels africains dans les musées européens, américains et autres qui se trouvent en dehors du continent africain? Voilà une grande question qui est posée depuis quelques dizaines d'années et qui revient à la charge. Des hommes d'État en ont parlé dans les années 70 déjà, entre autres le président du Zaïre de l'époque, le maréchal Mobutu Sese Seko du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Récemment, des hommes d'État européens en ont reparlé, notamment le président français Macron. Un peu partout, il y a des entretiens, des interviews, des prises de position, parfois avec beaucoup de passion. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans l'un des plus grands musées africains, je dirais, de l'Europe. Nous sommes au musée royal de Tervuren en Belgique. Musée qui date de plus d'un siècle déjà, puisque il faut le remonter à la fin du 19e siècle, en 1898. Musée qui est en outre en rénovation aujourd'hui. Rénovation qui veut dire aussi repositionnement peut-être des œuvres d'art africains, une manière de les rendre plus contemporains, de les montrer peut-être avec un regard plus critique. Et c'est le directeur du musée lui-même, Monsieur Guido Grissel, qui nous reçoit. Bonjour.
Bonjour. Et aujourd'hui, enfin ce mois-ci, on existe depuis 120 ans exactement, donc on date déjà de plus d'un siècle.
C'est une très vieille maison et vous venez de prendre récemment un positionnement assez clair sur cette question, même s'il reste encore beaucoup de points à discuter. Dans un article que vous avez fait pour le journal français Le Monde, où vous dites, entre choses, ça a été le titre retenu, « L'Afrique a été pillée, nous ne pouvons pas l'ignorer ». Alors, il y a la question du pillage, il y a la question de la reconnaissance de ce pillage, mais en même temps, vous dites que la question de la restitution ou du retour de ces œuvres d'art est une question plus compliquée que celle, disons, de l'acceptation du pillage. Comment voyez-vous ça?
Ben, d'abord, c'est vrai que ce n'est pas normal qu'une si grande partie du patrimoine culturel de l'Afrique se trouve en Europe. Hein. Déjà, du Congo, on parle de plus de 600 000 objets qui se trouvent en Europe, dont déjà 120 000 ici dans notre musée. Ce n'est pas normal, une partie de ces collections a été pillée. Et comment est-ce qu'on va traiter ça? Comment est-ce qu'on va assurer que l'Afrique puisse avoir accès à son patrimoine culturel? Parce que, moralement, ce patrimoine appartient à l'Afrique. Même si légalement, ça appartient, dans le cas de Tervuren, à l'État belge. Bon, comment est-ce qu'on peut assurer accès? D'abord, c'est une situation extrêmement complexe, parce qu'on ne peut pas généraliser, ça dépend un peu pays par pays. À mon avis, il faut d'abord commencer avec un dialogue, il faut se mettre autour de la table et parler franchement de quoi est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on veut atteindre, quels sont les objectifs. Il me semble que la première chose qui doit être faite, c'est faire un inventaire de toutes les collections, de tout le patrimoine culturel qui se trouve en Europe. Ce n'est pas difficile à faire parce que chaque musée a un inventaire détaillé avec des photos. Chez nous, à Tervuren, on sait exactement comment cet objet a été récolté, comment c'est arrivé ici, comment ça a été utilisé, quelles sont les publications qui vont avec, dans quelle exposition elles ont été utilisées. Donc ça ne prendrait pas beaucoup de temps de faire une telle liste par pays. Donc commencer déjà avec ça, avec l'inventaire. Et ensuite, on peut discuter, voilà, à quoi est-ce que vous voulez avoir accès directement, à court terme, à long terme, et comment est-ce que ça peut se faire? On peut parler, bon, la restitution, ça c'est une chose, mais on pourrait parler aussi d'exposition itinérante, on peut parler de prêt à long terme, mais il faudra dans beaucoup de pays, parce qu'il y a certainement des pays qui ont une capacité nationale pour héberger des collections, pour avoir des expositions, il y en a aussi d'autres où il n'y a pas de capacité nationale encore, il n'y a pas de musée, donc On doit un peu distinguer les choses. Et donc, quand on parle de ce genre de choses, d'exposition itinérante, même répatriement de certains objets, certainement de restes humains, là, je ne pense pas qu'il y a une discussion que des restes humains doivent être répatriés au Congo, ou de retour de certains objets très, très symboliques, pourquoi pas. Donc, mais on peut en parler, mais donc ouvrons le débat. Et ensuite, il faut aussi distinguer la problématique des objets, qui est une chose, et la problématique de, par exemple, les archives, les films, les photos, où il y a des techniques disponibles, où un rapatriement serait possible très vite et très facile. Par exemple, les archives, les photos, les films, on peut les numériser, on peut les renvoyer sur porteur, sur DVD, enfin comme on veut, et donner accès. Pour moi, personnellement, je trouve que même un accès aux archives est même plus important que l'accès au patrimoine culturel, parce que quelle est souvent la grande demande des Africains qui aimeraient bien écrire leur propre histoire. Comment est-ce que vous pouvez écrire votre histoire si vous n'avez pas accès aux archives? Et je ne parle pas maintenant uniquement des archives des objets ethnographiques, je parle des archives des pays colonisateurs qu'ils ont amenés et des archives qui vont sur le Rwanda, le Congo, le Burundi, le Sénégal et tout.
Jusqu'à ce sont des documents écrits, des textes de commission, des archives, tout ça. Il y a un accord, peut-être aussi des photographies, enfin, qui sont des objets d'art.
Aussi les archives qui sont à affaires étrangères, parce que maintenant tout le monde regarde le musée, mais la plupart des archives sont à affaires étrangères. L'administration par les colonisateurs dans ces pays, tous ces archives se trouvent en Europe. Jusqu'à présent, aucun pays colonisateur a donné accès directement aux pays colonisés, à ces archives. Ben pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Et donc, pour le moment, tout le monde parle d'objets. Moi, je parle d'une collection beaucoup plus large. Je parle aussi des archives, des photos, des films. Là, il y a des solutions à court terme qui seront possibles. Et donnons accès aux Africains, à leur patrimoine, et pas uniquement aux objets, mais aussi aux archives et les autres choses. Là, notre musée a déjà bien avancé. Quasi tous les films du période coloniale du Congo, Rwanda, Burundi, on a digitalisé, on a mis sur un DVD, on a envoyé au pays d'origine. Ben, pour les collections, je dis, ça dépend un petit peu pays par pays. Le Rwanda a un système de musée qui est très bien développé. Ils m'ont demandé le mois passé de faire des expositions itinérantes. On va le faire et en octobre cette année, on va commencer avec la première exposition qui aura au Kigali. Il y en a d'autres qui vont suivre. On parlera aussi à ce moment de l'inventaire que nous avons sur le patrimoine rwandais en Belgique. Et donc, un par un, on pourrait s'engager dans cette discussion dans une façon franche, constructive. Aussi, quand on parle de restitution, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui parle de restitution de tout ce qu'il trouve en Europe, mais certainement certains objets qui ont été pillés, je pense que là, il faut commencer le débat avec ces objets-là.
Lorsque j'étais étudiant et que je postulais un de ces emplois que les Blancs nous allouent, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les bons emplois qui étaient le fait des Blancs. L'histoire dont on nous parlait était aussi celle des Blancs.
L'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos possibilités réelles, nous laisse cependant exempt de tout complexe et de toute crainte.
Nous sommes avec Guido Grissel au Musée Royal de Tervuren en Belgique pour parler de cette question des œuvres d'art d'origine africaine et de leur restitution. Vous venez de parler du Rwanda. Le Rwanda est devenu mandat de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Le Congo est sous l'autorité belge, d'ailleurs du roi Léopold II, puis de la Belgique depuis la fin du 19e siècle, depuis 1885 pour l'État indépendant du Congo. Il y a donc un flux d'objets beaucoup plus important compte tenu de la durée et compte tenu de l'étendue du pays. Vous évoquiez la position du général, du maréchal Mobutu Sese Seko. Est-ce que vous avez déjà entrepris, après son fameux discours à l'ONU, un processus de retour ou de restitution, et qu'est-ce que ça a donné concrètement au niveau des résultats, du nombre et de la gestion de ces ressources qui ont été renvoyées?
Le musée de Tervuren était le premier musée au monde qui a fait une restitution. Donc après le fameux discours du président Mobutu à New York en 1972, je pense, il y a eu des discussions entre le président Mobutu et notre gouvernement. et qui ont mené au rapatriement de 176 objets de Tervuren vers le Congo et environ 700 objets du Rwanda qui ont été restitués vers ces pays d'origine.
La qualité de ces objets, c'est des objets, disons, comment dire, si on les cotait, disons, sur le marché des œuvres d'art, c'est des œuvres d'une grande qualité, d'un grand prix ou...
Il y avait certaines des 176 objets qui ont été rendus au Congo, il y avait certainement une trentaine de très hautes valeurs. Ils ont été décrits, on a une publication là-dessus, sur chacun des œuvres. Les autres, bon, c'était des beaux objets, mais bon, pas de chefs-d'œuvre, comme on dit. Mais après quelques années, tous ces objets ont été volés et ont été envoyés vers l'Europe et se trouvent maintenant dans les mains de gens privés en Europe, en Amérique, un peu partout. Donc c'était suite au départ du président Mobutu du Congo, dans sa fuite, on a pillé le musée national de Kinshasa et donc la plupart de ces œuvres se trouvent maintenant sur le marché international. Donc quand on commence avec rediscuter la situation de rapatriement, de restitution, il faut quand même assurer que les conditions sont là pour assurer que les objets sont bien sécurisés, ne sont pas pillés, comme a été le cas il y a 40 ans.
Donc on a l'impression que dans ces discussions, ça dépend beaucoup des pays, l'Allemagne, la Suède qui a des objets aussi sans avoir colonisé l'Afrique de très très longue date, les États-Unis d'Amérique. On a l'impression que les pays qui détiennent ces objets sont... sceptique, peut-être même un peu allergique sur le principe, disons, qui pourrait être généralisé, du retour de ces objets comme faisant partie du patrimoine des pays d'origine. Est-ce que ces objets, vous les considérez comme faisant partie aussi du patrimoine, pour le cas de Tervuren de la Belgique?
Oui, mais je pense que la réticence de certains pays ou de certains musées n'est pas tellement parce que qu'il consiste ici du patrimoine africain, c'est parce que c'est un sujet extrêmement complexe. Hein, déjà dans le Louvre à Paris, il y a 188 objets de Flandre qui ont été pillés par Napoléon et ses troupes dans le 19e siècle, ici dans les musées et églises de la Belgique, et qui se trouvent en France. Donc il y a beaucoup d'œuvres d'art de la Belgique qui se trouvent dans un pays européen et donc, une fois qu'on commence avec la restitution vers l'Afrique, certains gens vont aussi dire « Oui, mais et quoi avec nos œuvres hein? ?» Parce que si vous voyez, par exemple, la réticence qui est surtout très forte en Angleterre, il y a l'Athènes, la Grèce, qui est un pays européen, qui essaie d'obtenir les Elbin Marbles de l'Angleterre. Les Elbin Marbles qui ont clairement été volés, exportés illégalement. Quand on y réfléchit, il n'y a aucun argument possible pour ne pas rendre les Elgin Marbles de l'Angleterre vers la Grèce. Et pourtant, l'Angleterre refuse carrément parce qu'il ne veut pas créer un précédent. Je pense qu'une fois que ça commence avec la Grèce, c'est l'Inde, c'est le Bangladesh, c'est tous les anciens colonies de l'Angleterre qui vont le demander. Donc c'est une situation très complexe et je pense que c'est de là qu'ils sont un peu prudents. Mais moi, je rappelle quand même, il y a 20 ans, ou 30 ans, on avait beaucoup de ces discussions, pas notre musée, parce que nous sommes un musée sur le patrimoine africain, mais beaucoup d'autres musées en Europe avaient des relations ou développaient des relations avec l'Asie. Et là aussi, on avait le même problème qu'il y avait très peu de musées, ils n'étaient pas bien équipés, ils n'avaient pas de possibilités de conservation préventive et tout cela. Et là, petit à petit, l'Asie s'est développée, a développé la capacité nationale, et je ne pense pas qu'il y a encore un problème maintenant s'il y a un musée asiatique demande pour un prêt de collection de l'Europe qu'ils ne l'obtiennent pas. Donc les conditions sont là. C'est ça que je plaide aussi pour l'Afrique. D'abord, on doit ouvrir le débat d'une façon transparente, en commençant avec des expositions itinérantes, avec un renforcement des capacités nationales dans les pays africains. Et si on pourrait faire ça, on peut déjà faire un grand pas en avant. Plus la digitalisation des archives, des photos, des films, je plaide beaucoup qu'on donne plus d'attention à ça aussi.
Alors, il existe à Cotonou l'EPA, l'école du patrimoine africain, qui a été fondée avec la bénédiction de l'Union africaine et puis de partenaires étrangers, dont l'un des objectifs est justement de former des cadres de très haut niveau qui soient capables d'avoir à la fois, disons, une posture morale hein, et en même temps des compétences techniques pour la gestion de ces biens. Alors, est-ce que ça n'est pas déjà l'une des conditions qui est posée aux musées, disons, occidentaux pour la plupart, par rapport à la question du retour. Parce qu'on a l'impression que ce qui bloque, c'est à la fois l'argument technique que localement, il n'y a pas les capacités de gestion de ces ressources, et d'autre part, l'argument qui est mis sur la table, c'est que la propriété de ces biens, certes, est d'origine africaine, mais les États qui ont colonisé l'Afrique les ont acquis, et que ces biens feraient partie de leur propre patrimoine. Comment on peut faire pour sortir de ce dilemme?
Je pense que d'abord, il faudrait donner plus de ressources avec l'école patrimoine africain à Bénin. Ils ont des grands problèmes financiers. Nous, on travaille en proche collaboration avec eux. D'ailleurs, on a un cours avec eux sur la gestion des archives. On fait ça au Bénin avec l'école patrimoine africain, avec leur institution. Ça peut vraiment assurer une collaboration sud-sud. Mais donc, si on pourrait donner cette école encore plus de moyens, alors ils pourraient faire des efforts plus larges pour renforcer les capacités. Et moi, je préfère de loin de travailler avec ce EPA que d'organiser les cours ici à Tervuren, parce qu'à EPA, ce sont tous des gens de l'Afrique qui travaillent ensemble dans des conditions qui existent en Afrique et pas dans un environnement artificiel comme Tervuren. Et l'EPA, c'est certainement une des voies et devrait certainement être avec nous autour de la table quand on parle avec les représentants des musées africains sur le futur, sur ce répatriement, sur cette restitution. Il faudra aussi, pour nous, il faut aussi développer une sorte de framework, un cadre dans lequel qu'est-ce qu'on peut restituer, qu'est-ce qu'on ne peut pas restituer. Certaines choses ont été obtenues légalement, autres choses ont été payées, mais donc il faut faire, comme je disais au début, faire un inventaire, qu'est-ce qui existe en Europe, qu'est-ce qui est où. Ici en Belgique, pour la plupart, le patrimoine africain se trouve à Tervuren, mais si vous allez en Allemagne, moi je peux vous dire au moins 20 musées en Allemagne qui ont tous des grandes collections de l'Afrique, donc ça ne va pas être si simple que ça en Allemagne.
Et donc, par rapport à ce que le président français Macron a expliqué, qu'il est prêt à ouvrir des discussions, la Belgique. Donc, quand on dit la Belgique, ça veut dire essentiellement Tervuren, même si à Anvers et dans d'autres villes, il y a aussi des ressources venant essentiellement de l'Afrique centrale. Est-ce que dans votre article, dans votre intervention dans le journal Le Monde, vous expliquez que ces biens sont d'origine congolaise, mais appartiennent aussi au patrimoine de la Belgique. Est-ce que ce problème juridique ou ce problème de principe peut être nuancé suffisamment pour envisager des formes de retour?
Il faut en discuter, ça dépend un peu objet par objet. Certainement, légalement, toutes les collections qui sont dans des musées du secteur public en Belgique, ça appartient à l'État belge. Donc, toutes nos collections ici à Tervuren, formellement, appartiennent à l'État belge. Pour les faire sortir du patrimoine belge, il faut un acte parlement. Comme vous le savez, on a un parlement pas uniquement fédéral, on a un parlement flamand, un parlement bruxellois, un parlement francophone, wallon, allemande, donc on a, je pense, 10 parlements qui chacun devront rectifier cet acte. Donc ça va durer un peu de temps. De l'autre côté, il n'y a rien qui nous empêche pour déjà commencer avec des prêts à long terme et faire le processus formel entre-temps. Donc il y a plusieurs options possibles. Je ne pense pas que ça, la situation juridique devrait empêcher qu'on peut engager dans la discussion et voir les pistes.
Bon, ben voilà un point de vue qui me semble en définitive plus ouvert et plus disponible que ce qu'on a écrit, ce que vous avez écrit dans le journal Le Monde, qui montre que le débat est ouvert. Et en effet, ce débat entre Européens a été très virulent. On sait que la ministre de la Culture grecque, Mélina Mercouri, est montée au créneau et a eu derrière elle tous les pays anciennement colonisés qui ont dit que voilà une grande question que nous devons mettre sur la table des négociations. Merci à vous, Monsieur Guido Grissel, le directeur du musée Royal de Tervuren en Belgique, de nous avoir reçus au micro de Mémoire d'un continent.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.